Ouais, je comprends vraiment pas pourquoi vous vous acharnez sur Serge Dassault, quoi. Ce pauvre gars là qui est tout vieillot, qui est obligé de soudoyer les gens de leur quartier pour qu'ils votent pour lui. Je veux dire, c'est presque, ça pourrait vous tirer une larme, quoi. Vous imaginez la tête de son père dans sa tombe, le pauvre Marcel, il doit se retourner dans sa tombe, quoi. Lui, il soudoyait des ministres, des présidents africains pour vendre ses avions de merde et tout. Et lui, il en est à soudoyer dans les quartiers avec une petite enveloppe et tout. Laissez-le tranquille, dans 10 ans il distribuera les bonbons à la sortie des écoles, quoi. Allez, ciao, vive, portez-vous bien.
Je viens d'entendre sur ma radio chérie France Inter que notre président bien-aimé dit s'intéresser aux énergies renouvelables. C'est vraiment étonnant ça. Comment se fait-il qu'il s'y intéresse aujourd'hui aux énergies renouvelables? Serait-ce les 15% d'électeurs qui l'intéresseraient? Oh, c'est étonnant là quand même. Mais il faudrait quand même qu'il fasse attention parce que, comme disait Jean-Pierre Raffarin lorsqu'il était Premier ministre, attention à ne pas épuiser les énergies renouvelables. Bravo à vous. Au revoir et à bientôt.
Bonjour, je suis en train d'écouter l'émission sur Serge Dassault qui est très très intéressante. Sincèrement, elle est vraiment très bien. Par contre, moi j'ai une petite question à vous poser sans parti pris ni rien. J'ai entendu ce matin qu'effectivement Serge Dassault avait été condamné à 1 an d'inéligibilité, très dur à dire, excusez-moi. Mais j'ai entendu aussi que son principal opposant communiste, justement, avait été aussi condamné à 1 an d'inéligibilité. Donc j'aimerais bien savoir exactement pourquoi, parce que c'est passé très vite, j'ai rien entendu dessus. Et voilà, comme je sais que vous êtes des journalistes très préoccupés par la vérité. Et puis sincèrement, j'aimerais vraiment savoir parce que j'ai pas suivi du tout. Et là, cette émission est très intéressante et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans l'autre camp, quoi, finalement. Voilà, merci en tout cas pour tout et à bientôt. Au revoir.
Ouais, Daniel, t'es chiant, ça fait 2 fois que tu passes cette émission. Ouais, moi, c'est bon, on a compris, quoi. Mais je pense que si t'étais né en banlieue aussi, avec des parents sans une thune, et que si t'avais jamais pu partir en vacances, mais t'aurais fait pareil, t'en aurais croqué pareil.
Bonjour, c'est Caroline. Je vous appelle suite à votre série de reportages sur la Bolivie, notamment parce que récemment, là donc je crois ce week-end, il y a eu un massacre de indigenos au Pérou, Nord Pérou, dans le département de Guada, je crois. Et donc c'est suite à un décret loi de 2008 sur la propriété des terres. Une question qu'on retrouve partout en Amérique latine. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, enfin en tout cas moi qui m'intéresse énormément. Voilà, donc bon courage et j'espère qu'il y aura une suite sur ces questions péruviennes. Voilà, à bientôt, bon courage.
Bonjour, je vous appelle de Tarapoto, ville appartenant au district d'Amazonas dans le nord du Pérou. Dernièrement, le gouvernement péruvien vient de voter des décrets de loi remettant en cause le droit à la terre des Indiens prévu par la Constitution péruvienne en autorisant les investisseurs étrangers à acheter leurs terres. Celles-ci contiennent de nombreuses ressources minières et pétrolifères. Pour défendre leurs terres, les Indiens se sont soulevés guerrièrement en bloquant durant 50 jours les principales routes du nord du pays, empêchant ainsi le transport de ces ressources. Dernièrement, la police a chargé sur des barricades à Bagua, un des lieux de révolte, provoquant de nombreux morts, notamment du côté des Indiens et quelques-uns côté de la police. Depuis, un couvre-feu a été notifié à la population de la ville et commence de 3h de l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Actuellement, le mouvement ne faiblit pas. Une nouvelle action est prévue le 11 juin prochain. Nous essaierons de vous tenir au courant de l'évolution du mouvement. Voilà.
Merci pour ces informations et pour ces messages qui évidemment nous intéressent, puisque aujourd'hui on continue notre route en Bolivie, tout près évidemment du Pérou, où se déroulent les scènes que ces auditeurs décrivent. Effectivement, la fin de la semaine dernière, samedi, vendredi et samedi, il y a eu des scènes terribles dans la partie amazonienne du Pérou. Des milliers d'indigènes, comme on dit, bloquent les routes déjà depuis depuis plusieurs semaines et ils manifestent contre l'exploitation illégale de leurs territoires ancestraux par les grandes compagnies pétrolières et contre les traités de libre-échange. L'armée et la police ont intervenu pour débloquer les routes, donc dans le nord du pays. Bilan des affrontements, alors évidemment, bilan discuté. On avance le chiffre de 33 victimes, dont 22 policiers, mais bien évidemment que les manifestants contestent ce bilan. Il y aurait 159 blessés, de nombreuses arrestations, et les leaders indigènes contestent évidemment ces bilans. Le leader indigène Alberto Pisango a été reçu le Nicaragua lui a accordé l'asile politique. Bref, ça chauffe dans cette partie du Pérou. C'est pas une situation nouvelle. C'est pas sans écho, évidemment, avec ce qui nous intéresse en Bolivie. Mais alors, on veut tout de suite rassurer nos amis indigènes, indiens, boliviens. Le vent écolo qui souffle en France va arriver jusqu'à eux, leur cause est juste, et dans les dans les jours qui viennent, ils vont voir arriver les Verts européens, ils vont voir arriver Yann Arthus-Bertrand, Monsieur Pinault, enfin tout ce beau monde qui lutte pour l'écologie va venir à leur secours, à n'en pas douter. On en parlera peut-être plus en détail aujourd'hui dans l'émission d'aujourd'hui ou sinon demain. Là, pour l'instant, on reste en Bolivie, on reste sur sur cette étrange ville qui est El Alto, au-dessus de La Paz, où s'est déroulé, mais cette fois c'était il y a 6 ans, en 2003, ce qu'on a appelé la guerre du gaz. Et il y a une analogie, évidemment, entre ce qui se passe aujourd'hui dans ce Pérou, avec une présidence droite ultralibérale, et ce qui s'est passé à l'époque contre le président libéral, ultralibéral, qui s'appelait Goni, et qui, à la suite de cette insurrection baptisée « guerre du gaz », a fui le pays, laissant 2 ans plus tard la place à Evo Morales, qui a été élu en décembre 2005. Et ce qui inaugurait ce que nous appelons, nous, à la base, si j'y suis, cette révolution en dents de scie dont nous allons parler. Je voudrais revenir sur l'affaire Dassault, puisque nous avons hier diffusé, en nouvelle diffusion, d'un reportage que nous avions présenté sur les méthodes et les techniques d'Dassault à Corbeil-Essonne. Effectivement, c'est juste l'adversaire politique de Serge Dassault, Bruno Piriou, lui aussi a été suspendu. Il est inéligible pour 1 an suite à des irrégularités dans ses comptes de campagne. Alors, quant à l'auditrice qui dit « si t'étais né dans la banlieue pauvre, etc., d'une famille je ne sais quoi pauvre », eh ben c'est mon cas, figurez-vous. Je suis né dans une banlieue pauvre, dans une famille très pauvre, et jamais nous n'avons eu à en croquer, comme vous dites. C'était pas la mode à l'époque, peut-être. Mais en tous les cas, nos reportages étaient destinés non pas à fustiger les corrompus, mais les corrupteurs. Il est très mal d'être corrompu, mais enfin, là, c'était notre cible, était le corrupteur, et ça a été aussi la cible du Conseil d'État. Départ pour la Bolivie dans quelques instants, après quelques messages encore, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. J'ai un message pour notre président Sarkozy et ses amis qui ont réussi leur vie. J'ai entendu ce matin qu'après le bon score de Daniel Cohn-Bendit aux européennes, il allait mettre le paquet sur l'écologie, Nicolas Sarkozy. Alors moi, je lui propose de créer une filière de récupération et de recyclage des montres Rolex en or qui ne fonctionnent plus. Comme ça, il ne polluera pas en les mettant dans la poubelle. Voilà, merci.
Bonjour, c'est Diane de Lausanne. Pour vous inviter à venir au Repère de Lausanne, jeudi 11 à 20h au restaurant Le Milan sous la gare. La dernière fois, un nouveau venu par le répondeur de là-bas, nous a promis une présentation de revues, de journaux, etc. On se réjouit de l'entendre, on se réjouit de vous voir nombreux. À jeudi donc, et merci à l'équipe de là-bas si j'y suis.
Ouais, salut Mermé. Écoute, c'était en passant par hasard à Place Vendôme. Des fois on passe par hasard Place Vendôme à Paris.
Et les succès que t'entends derrière, là, c'est les travailleurs sociaux de la pénitentiaire qui manifestent leur mécontentement devant le ministère de la Justice. Peut-être que ce serait pas mal d'envoyer un petit journaliste sur place.
De toute façon, effectivement, on va...
Allez,
on va
salut. Salut.
Oui, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Petit message d'Alsace pour dire que la société Osram, donc qui fabrique des petites ampoules, a décidé de mettre en place un PSE en licenciant 108 personnes. Ces 108 personnes étant les personnes qui ont refusé la baisse de salaire demandée par la direction de 12%. Alors, on va encore crier au patron voyou, parce que c'est vrai qu'il délocalise en Tchéquie, mais bon... Ils auraient pu demander 50%, hein. Alors faut pas se plaindre quand même, franchement, hein. Allez, bon courage, salut.
Salut à tous les AMG, le prochain repère du 14e aura lieu le dimanche 14 juin à 20h au Magique, 42 rue de Gergovie, métro Plaisance. Pas de thème abordé, quoique les élections européennes peuvent nous fournir de quoi débattre. Avis aux amateurs. Salut à tous, c'était Philippe. À bientôt.
Mais c'était quoi la guerre du gaz en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'on voulait pas que notre gaz soit vendu.
J'étais
dans mon quartier.
Ciudadela.
Donc c'est à Ciudadela, c'est en haut de l'autoroute où je vous ai.
La courbe dans ce
virage.
Empezaban disparate.
C'est là qu'ils ont tiré.
La pasarela de abajo lo tumbaron, lo han dinamitado.
Alors là, pendant les événements, pendant l'insurrection, on avait fait tomber les passerelles. On avait dynamité.
Después que el Ministerio Público presentó dos memoriales con riesgo de fuga contra los exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ahí es donde nosotros nos enteramos por la radio, por noticias.
On a appris par la radio qu'ils avaient commencé à tuer des gens par là-bas, vers Warisata.
Sí, hay tres personas que han muerto ese
día. Il y a trois autres personnes qui sont mortes ce jour-là.
Cuando se han enterado que allá van a matar gente, del alto se levantaron la gente para bloquear los caminos.
Et quand on a appris, quand les gens ici ont appris qu'il y avait eu des morts à Warisata, tout le monde est sorti et tout le monde a bloqué les routes et les accès.
Claro, de la guerra del Chaco.
C'était des antiquités. Notre plan, c'était de tirer dans la citerne pour que le camion citerne explose.
Salut, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao. Bolivie, une révolution en dents de scie.
Flight number 2, arriving from New York.
Distrito 6, district 6, El Alto Bolivia. El Alto Bolivie. Bienvenidos, bienvenue. Où est Solidaridad? Là, ils font la gymnastique, les enfants. Ils font des petites courses. Alors, il y a le prof de gym, là, qui a le sifflet. Et qui leur fait faire des allers-retours en courant.
Avec des petits paquets, là.
C'est ça, les petits déjeuners, ouais.
Ah, d'accord.
Donc, c'est des madeleines, il y a des petits sacs de madeleines.
Ouh, il y en a qui tiennent des... Et il y en a une qui tient le cahier, le registre, là, hein. C'est très précis.
Alors, 34 pour la classe numéro 12. Voilà, selon le nombre d'enfants. Et puis, il y a une dame qui s'occupe de la distribution. Parce que c'est des petites briquettes de lait, et puis... Leche de vaca qu'on avait, alors du lait de vache avec de l'avoine. Quelle couche, sur quelle classe? Première. Ils sont 20. Hop, 20 madeleines, 20 petites briques de lait. Hop, et le petit garçon, il part avec le petit-déj.
Thank you.
charmante petite scène en Bolivie, à El Alto, au-dessus de La Paz, les enfants, l'école, les enfants qui récitent et qui chantent, c'est gay comme tout, et puis qui à 10 heures, eh ben font se mettre en rang pour recevoir un petit un petit casse-croûte avec une petite dose de lait, voilà. C'est gentil comme tout, c'est sympa comme tout, ça pourrait être n'importe où dans le monde. Il est 10 heures du matin. Et pourquoi ça présente un intérêt, cette petite scène? Ben, parce que la plupart des gosses qui sont là, s'il faut leur donner quelque chose à 10 heures du matin, c'est qu'ils n'ont rien mangé le matin en partant de chez eux. Pourquoi? Parce que ben, les parents sont pauvres. La Bolivie est un pays très très pauvre. Plus de 60% des Boliviens vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine après la Haïti. Et voilà, donc bien souvent c'est leur premier repas de la journée. C'est pas que les parents soient des gens furieusement méchants, mais c'est qu'ils n'ont pas de sous, bien qu'ils sont déjà partis au boulot, essayer de grappiller quelques argent pour vivre et survivre. Alors, généralement, ces distributions, ben, c'est des ONG, c'est des systèmes caritatifs. On est habitué à ces scènes depuis longtemps dans ces reportages et un peu partout. Sauf que là, ben, voyant que ça marchait pas tellement, cette histoire de l'attelage néolibéral et le caritatif et l'ONG humanitaire, ben, les Boliviens essayent autre chose. Depuis 2005, ils essayent autre chose. Ils ont élu un président différent, Evo Morales, avec un programme différent, un projet différent, et qui est en train d'être appliqué. Appliqué avec des hauts, des bas, des avancées, des reculades, comme on dit, du pragmatisme. Ça veut dire des concessions par rapport aux grands rêves et aux grandes promesses. Mais aussi avec indéniablement un certain nombre de réussites, dont celle-ci. Dont celle-ci, c'est une distribution par l'État. C'est l'État qui distribue ces doses de lait et ces nourritures aux enfants le matin. Est-ce que ça change tout? Ah, peut-être, peut-être. En tous les cas, c'est ce à quoi croit la majorité des Boliviens aujourd'hui. Je dis bien croire, parce que dans ce domaine, aujourd'hui, il n'y a pas de certitude. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Bolivie est en rupture avec, on l'a dit, ce qu'ils appellent le néocolonialisme ou le colonialisme intérieur, c'est-à-dire ce colonialisme qui a si longtemps, pendant des siècles, relégué les autochtones indiens, les indigènes, à une citoyenneté de deuxième rang. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est évidemment une rupture avec le système néolibéral et autres thérapies de choc qui ont conduit ce pays au plus bas. Et la rupture, c'était cette guerre du gaz sur laquelle nous revenons aujourd'hui, qui s'est déroulée autour de nous, là où nous sommes, à El Alto, dans cette étonnante banlieue, cette ville auto-construite, c'est-à-dire construite par les citoyens eux-mêmes, des citoyens qui ne se laissent pas faire et qui sont les responsables de cette insurrection qui a tout changé dans ce pays en dents de scie.
En este país de empresarios y explotadores ofrecen trabajos de mierda y miserables. Antes que trabajar como un esclavo y ser la servidumbre, prefiero el despido. Proletarios del país, levantar las manos, luchar para lograr la igualdad. Al menos la única libertad que de veras poseemos es la de elegir por nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? ¿Somos lo que queremos o somos lo que quieren que seamos? En esta sociedad donde la plata va primero ante cualquier cosa, en esta maldita esfera, aún tengo la congoja de por qué entre hermanos de un mismo país existe discriminación, racismo, fascismo. ¿Qué hacemos? ¿Acaso buscamos nuestra autodestrucción? La palabra es nuestra arma, la difundimos a las masas. Fuerza material edificada con palabras, ideas tras ideas, estrategias verdaderas, matando al sistema, las logias y sus fuerzas.
Là, il y a la passe qui est couverte d'une nappe de poussière. Comme ça vient de la partie ouest de l'altiplano, ça va être la terre qui est balayée un peu par le vent. On le voit aussi au-dessus de l'Alto, vous voyez, une petite nappe tout au-dessus. Et il y a les Limani qui émergent tout au fond. Il y a la Cordillère Royale hein, sur la gauche. Ici.
Franck Poupeau.
Avec l'autopista qui passe en bas là-bas. Avec l'autoroute qui monte. Et au-dessus, ce sont installés d'autres quartiers. Le quartier où on va aller là-haut, un quartier où il y a eu à la fois des gens recasés, des zones dangereuses qui étaient instables, donc les gens se sont fait virer. Ils ont perdu les sous qu'ils avaient investis dans leur terrain, ils ont été expulsés par la mairie au seuil des années 2000. On les a recasés dans une vieille usine plus haut, qui est maintenant l'école, et où ils ont vécu là-dedans pendant 2 ans. Et petit à petit, ils ont construit leur maison avec les briques d'adobe, hein, de terre et de cailloux. Il y a une partie du quartier, c'est des anciens fabriles, c'est les fabriles des anciens ouvriers. Et une autre partie, c'est les anciens mineurs. Et on leur achète un lot de terre avec quelques briques pour construire une maison à 4 murs et pour s'installer pour la retraite. Voilà. Puisqu'il y a eu une faillite du système des retraites et que les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient cotisé à partir des années 80, 80-90.
Mais c'est ça qui est frappant, hein, qui nous frappe beaucoup, beaucoup. Et depuis qu'on est là, c'est à quel point il y a une égalité pour les gens, je le dis et je le répète parce que moi ça me frappe beaucoup, entre la période de la dictature et le néolibéralisme.
D'où l'importance symbolique de la rente dignité, de la renta dignidad d'Evo Morales pour les petits vieux, de donner une retraite universelle à tous les gens. Et ça, c'est vraiment symboliquement, c'est extrêmement important.
Vraiment, ce néolibéralisme qui met. Nous, on n'en est pas là en France. Hein. On n'en est pas là. Hein. C'est-à-dire que ceux qui ont soutenu le néolibéralisme, qui l'ont chanté, etc., ils sont toujours là. Hein. Toujours à la tête des idées, ils sont sur la scène des médias. Et, ici, ils ont compris quand même quelque chose. C'est ça qui fait que Morales est au pouvoir, non ?
Tout à fait. Ouais. Il y a, plus que le mouvement indianiste, qui est une fraction finalement très restreinte, beaucoup plus visible, mais finalement très restreinte du mouvement social et populaire bolivien, c'est ce rejet des politiques libérales qui ont commencé ici en 85. Si on parle beaucoup du Chili comme laboratoire, la Bolivie était beaucoup plus pionnière en fait. Il y avait une hyperinflation galopante en 85. Gonzalo Sanchez de Lozada est allé aux États-Unis, a rencontré Jeffrey Sachs, l'a ramené ici avec Daniel Cohen, entre nous, économiste français, qui était dans l'équipe apparemment.
Un grand économiste français, omniprésent.
Et ils ont réduit l'inflation, mais en détruisant tout l'appareil d'État au niveau économique et social. Voilà. Dans l'eau, dans les transports, dans tout ça. Donc les dernières lignes de chemin de fer qui existaient ont disparu, les télécommunications ont été privatisées. Voilà. Il y a tout un agenda très très bien pensé qui s'est étalé sur une quinzaine d'années quasiment. Mmh. Voilà, jusqu'en 2003 marque la rupture avec tout ça. Au nom de la souveraineté internationale sur les hydrocarbures.
C'est ça, et avec la guerre du gaz.
Et c'est la guerre du gaz, c'est ça.
La guerre du gaz qui s'est passée par ici.
Exactement.
Alors là, on comprend beaucoup mieux. Quand on se fait raconter la guerre du gaz par les témoins, par les gens du coin, par les chercheurs comme toi, et on comprend très bien, on voit très bien le lien entre ce conflit, avec 67 morts, et puis 2 ans après, Morales qui arrive au pouvoir.
C'est ça. Donc c'est un peu l'aboutissement de 20 ans de libéralisme dur, hein, 85 jusqu'à 2003, quoi. C'est ça.
Et aujourd'hui, cette histoire de la guerre du gaz fait à nouveau la une des journaux parce qu'il y a eu une plainte contre le cabinet ministériel de Gonzalo Sanchez de Lozada, qui était à l'époque justement de la répression de la guerre du gaz au gouvernement. Hein, et donc ces gens-là ont fui au Pérou. Et donc il y a un conflit diplomatique entre
le Pérou et l'ONU les accueille comme réfugiés. Alors paradoxalement, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'avec maintenant la crise mondiale des hydrocarbures et tout ça, Evo va peut-être quand même être obligé de vendre du gaz vers le Chili. Voilà. Mais ça sera Evo qui le fera, et c'est un gouvernement national qui va le décider, et pas le brader non plus. Mais c'est un peu l'ironie de l'histoire malgré tout. Voilà. La vente du gaz vers le Chili était plutôt un prétexte qu'autre chose. Voilà. Le Chili, en plus, dans l'imaginaire, étant l'ennemi qui a privé la Bolivie de la mer.
Alors ça, c'est un truc très très fort.
Très très fort.
Ouais. On comprend rien à la Bolivie si on comprend pas ces 150 km qui séparent la Bolivie de la mer. Pour les Boliviens,
c'est le traumatisme.
Et oui, ça c'est un retournement formidable. Si effectivement le gouvernement bolivien actuel d'Evo Morales vend du gaz au Chili, puisque c'est ça qui, en 2005, avait déclenché les émeutes et l'insurrection appelée guerre du gaz. La question, elle était qu'on avait, quelques années auparavant, au tournant des années 2000, découvert des gisements de gaz formidables, qui étaient une aubaine et une promesse un espoir pour ce pays pauvre, sauf que les décisions prises par le gouvernement, par assisté, par conseillé, par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., étaient de vendre ce gaz aux États-Unis, en passant par le Chili, Et ça a été le prétexte, parce qu'il y a un vieux contentieux entre la Bolivie, on vient d'en parler, le Chili, au sujet de l'accès à la mer. Ce dont on vient de parler aussi, c'est cette histoire des ministres boliviens poursuivis pour ce massacre, pour le massacre de la guerre de gaz, qui sont poursuivis devant la justice bolivienne et qui ont eu l'asile politique de la part du Pérou voisin. C'est-à-dire que le Pérou a accordé l'asile politique à ces trois anciens ministres responsables, co-responsables, pense-t-on, devant de ces crimes lors de cette insurrection, les 67 ou 60, 70 morts. Alors le gouvernement de La Paz va saisir la Cour internationale de justice de La Haye pour contester cet asile politique, ce qui évidemment est pour nous un moyen d'évoquer ce qui se passe ces jours derniers au Pérou, où il y a des situations qui sont comparables, qui ne sont pas sans écho, sauf que c'est l'inverse. Au Pérou, c'est encore un gouvernement de droite néolibéral. Alors, on continue donc dans cette ville d'El Alto. Il y a eu cette insurrection et on se demande toujours, les sociologues, les chercheurs se demandent toujours comment ça a été possible, comment cette population s'est organisée, comment ça s'est fait, parce que on s'est aperçu au fil des jours, au cours des 10 jours qu'a duré cette insurrection dans El Alto. Elle avait commencé auparavant, vous vous souvenez, dans les régions de l'Altiplano, où les émaras radicaux ont été le déclenchement, si on peut dire, de cette histoire, mais ça s'est déplacé vers El Alto, et là on est toujours étonné de la façon dont les choses se sont organisées. Organisation spontanée, il faut dire qu'il y a une tradition d'organisation à travers des conseils de quartier, à travers des églises, à travers tout un système d'auto-organisation qui est à la base de cette insurrection qui a changé le visage et peut-être bien l'avenir de la Bolivie. Voilà, ça c'est vraiment un moment génial. On est dimanche après-midi, on est dans El Alto quelque part, mais c'est vraiment là on se dit que en France c'est pas seulement la classe ouvrière qui a été démantelée sociologiquement, c'est vraiment la classe populaire, quoi. Parce que là, c'est le populo qui grouille, qui vend, qui achète, qui s'habille beau, qui se marre, qui s'inquiète, qui vit tout simplement, qui picole, qui...
qui danse, il y a les répétitions des fanfares dans la rue.
Et on s'habille beau, hein. On s'habille beau quand même, les dames sont habillées belles, avec ces fameuses silhouettes des femmes d'ici, avec ces couvertures bariolées qu'elles portent sur le dos et qui leur sert de tout, de sac à dos, pour mettre le monde, pour mettre les affaires,
pour porter une caisse de bière.
Une caisse de bière, s'il le faut. Et c'est génial, quoi. Ça bouge, ça vit, c'est un étonnement. Là, c'est un mode de vie essentiel, quoi. Alors après, il faut se dire que c'est pas du tout le bazar, hein. Tout ça est très organisé, très structuré, équilibré. C'est une horlogerie fine, une horlogerie sociale, économique, marchande, et très très fine. Il faut pas croire du tout que c'est le bazar.
Et là, on va passer devant la cafétéria, la cafétéria El Che.
Mais là, c'est le Che hamburger, hein. Hein, t'as vu ça,
ouais.
Café El Che, ouais. Les meilleurs hamburgers du coin. Et le héros, c'est le flic là, qui essaye de mettre de l'ordre là-dedans.
Mais ça roule, hein, ça passe, c'est fluide,
ouais,
quoi.
Il va passer.
Et là, justement, il y a aussi une effigie du Che en métal.
Ah, ouais. Ah, oui, magnifique.
Et le Che, quand même, l'arme à la main, hein, donc il a son fusil.
Ah, il est beau,
à la main, et il regarde à l'horizon.
Le Che, ça change de Jésus-Christ.
Yeah.
aquí haciendo la introducción. Ahora mi generación, esto va para mi nación. Esta canción que va a continuación, yeah. Y el G. Hip Cobra, esto es rap morenada, su rapeo no digo nada, aunque soy mejor que maraqueta blindada, yo no canto mamada, y si canto mamada ya tú sabes, preferible no hacer nada, y va un tributo a Hacha Flores, y pésame mil flores, corazones y amores, estimo muchos dolores, Hacha Flores mil flores, pocos dolores y full amor. Yeah. Hip Hop Rap. Hablar de mi nación porque hay corrupción. Aún discriminación por trabajo, humillación. Dicen que no hay racismo, hay clasismo. Sigue el fascismo, por eso yo no soy el mismo. Mi lírica causa sismo en este abismo. Yo soy el cataclismo y eso ya tú sabes. Dime.
Yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. Donc c'est les gisements pétroliers nationaux de Bolivie. On est devant la planta Sencata.
Este ha sido el lugar más conflictivo que ha habido aquí.
C'est ici qu'il y a eu les affrontements les plus violents.
Ces affrontements les plus violents, c'était le dimanche?
C'est un domingo, vous savez.
Oui, c'était le dimanche, c'était un dimanche, oui.
Domingo, el lunes, ya empezaba la gente a agitarse. Cavaron hacia aquel lado.
Oui, donc dès le dimanche et le lundi, les gens ont commencé à s'activer et ils ont creusé ici une barricade.
Era unos 7 metros de alto y 6 metros de largo el agujero cavado.
Donc il y avait un trou de 7 mètres de profondeur.
Et 6 mètres de largo.
Et 6 mètres de largo. Creusé.
Puis claro, con pura pulso.
À la pelle et à la pioche.
Mais c'était une guerre civile, quoi. C'était une insurrection.
Exactement.
Tout à fait, c'était ça, oui.
Oscar, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est la façon dont les forces de l'ordre ont réagi. Ils n'ont pas utilisé de gaz lacrymogène.
Non, il y a gaz.
Non, ils n'ont pas envoyé de gaz lacrymogène.
Gaz lacrymogène, on avait. Era pura bala.
Ils tiraient à balles réelles.
Mais là, Oscar, il y a eu 70 morts. Combien de blessés? On a une idée du nombre de blessés?
Siempre, la prensa no lo hacía muy bien. Ese era el problema.
Donc on n'a jamais su exactement parce que la presse ne faisait pas son travail à ce moment-là.
Nunca avisaban la verdad.
Est-ce que tu as eu peur parfois de te faire tuer?
Tengo un caractère muy diferente. No tengo miedo a nada.
Mais moi j'ai un caractère eso, comme ça, j'ai peur de rien.
Sí, es pasé en allá. Lo que dice Chávez es verdad, ¿no? Dice un Vietnam, otro Vietnam, un Vietnam, dos Vietnam, no hay problema. Dice, pero eso es verdad porque yo lo he visto.
C'est ce que dit Chavez, c'est un Vietnam, deux Vietnam, il n'y a pas de problème.
C'était le Che. Un, dos, tres Vietnam, c'était le Che.
Sí, pero ese es el mismo eslogan, pero a la gente boliviana igual está preparando.
Ce même slogan ici, ça compte aussi pour les Boliviens.
Mais contre qui?
Contre la droite, pas confrontar.
Pour la droite, si elle revient pour pouvoir se défendre. On n'a pas peur de ça, c'est pour ça qu'on n'a pas peur.
Voilà, on retrouve Oscar, le chauffeur de taxi, qui a participé à ces journées terribles. Les scènes qu'on nous raconte de cette police, de cette armée plutôt, qui tire dans la foule, qui terrorise littéralement cette population, mais cette population qui tient, qui reçoit des secours, les mineurs qui arrivent pour les soutenir, les paysans qui arrivent pour soutenir les insurgés d'El Alto. Il y a d'autres endroits du pays qui sont aussi, qui se soulèvent également. Et puis les classes moyennes, même de La Paz, qui finissent par soutenir, elles aussi, ces insurgés. C'est donc toute une population, même si on nous raconte des scènes de racisme, parce que El Alto, c'est essentiellement des paysans indigènes qui peuplent cette banlieue, qui sont venus, qui se sont déplacés. Et donc là, il y a des scènes de racisme et de meurtres inspiré par le racisme, nous dit-on, et ça ne nous étonne pas trop quand on voit, évidemment, mais ça se voit à l'œil nu, cette relégation. Et cette relégation, on la voit aussi dans les rues chics de La Paz, vers les Champs-Élysées de La Paz, l'équivalent, où les cireurs de souliers portent des passe-montagnes, vous savez, comme ça, des cagoules. On dit, tiens, hein, c'est la mode, ils se déguisent en sous-commandant Marcos. C'est pas ça, c'est qu'ils veulent pas se faire reconnaître. Ils ont honte de devoir faire ce boulot-là. Ils veulent pas qu'on voit qui ils sont. Et ça, c'est un geste, c'est un signe de dignité. Et en même temps, évidemment, c'est quelque chose de spectaculaire. Les cireurs de souliers portent ainsi des cagoules. Donc là, on va rencontrer... Là, on a eu la voix du chercheur Franck Poupeau, du sociologue, un télo, etc., avec ses analyses. Là, c'est une autre voix, un autre témoignage, celui de Luis Castaño.
L'étendue de cette ville, El Alto, 800 000 habitants, mais tout est plat. Il y a rarement d'habitation de plus d'un étage.
Et là, on attend Luis Castaño. Donc, on attend Luis Castaño, qui est un des blessés, une des victimes de la guerre du gaz.
Et on nous a dit qu'il avait perdu une jambe. Donc, on attend un unijambiste, Luis Castaño.
C'est le jour de la lessive, là, hein? Sur des cailloux dans la cour, des gros cailloux ronds dans la cour. On a étendu le linge, une poutre en bois. Puis là, il y a un beau mouton.
C'est mes ovejitas.
Oui, c'est ma petite brebis.
Daniela.
Elle s'appelle Daniela. Tocayos. Tocayos, c'est ceux qui ont le même prénom.
Elle est bonita, es manchita, ça c'est tocano.
Elle est belle, tu peux la caresser. Daniel et Daniela.
C'est une brebis qui s'appelle Daniela aujourd'hui.
Elle est bien, hein?
Ah, regarde celle-là.
Toi, tu étais engagé, tu militais ou tu étais simplement un témoin?
Solo a mi papá le fui a llamar, nada más.
Non, moi, j'étais pas en train de manifester, j'étais juste venu chercher mon père.
Estaba manifestando mi papá.
Mon père, il était en train de manifester, lui.
Mais c'était quoi la guerre du gaz, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
O sea, eso era para que no se venda nuestro gas.
Parce qu'on voulait pas qu'ils vendent notre gaz.
Et que el Gonzalo Sánchez de Lozada quería vender nuestros gas sin consultar el pueblo.
Parce que le président, il voulait vendre notre gaz sans nous consulter, sans consulter le peuple.
Y él hacía con sus ministros, con sus colaboradores, hacía entre ellos nomás.
Donc ils avaient tout manigancé entre eux, avec ses ministres et ses collaborateurs.
Y de eso el pueblo se enojó, entonces de ahí empezaron los bloqueos.
Donc là, le peuple s'est fâché, s'est mis en colère.
De ahí empezó desde Guarizat, desde Sorata.
Vino donc là, les blocages ont commencé depuis Sorata, depuis Guarizat.
Ahí es donde nosotros nos enteramos por la radio, por noticias que ya a la gente allá ya les va a matar.
Et nous, on a appris par la radio qu'ils avaient commencé à tuer des gens par là-bas, vers Guarizata.
Sí, hay tres personas que han muerto ese día.
Et il y a trois autres personnes qui sont mortes ce jour-là.
Cuando se han enterado que allá va a matar gente, del alto se levantaron la gente para bloquear los caminos.
Et quand on a appris, quand les gens ici ont appris qu'il y avait eu des morts à Guarizata, tout le monde est sorti et tout le monde a bloqué les routes et les accès.
C'est une guerre que l'on est en train de vivre, un massacre total.
Mais justement, les voisins, on essaie de s'approcher des blessés. Mais les militaires nous tirent dessus, nous veulent nous mitrailler. Et en plus, ils donnent des coups de pied aux blessés. C'était le 12 octobre 2003.
Estaba en la zona 50 en la planta del gas. Entonces yo me quedé un ratito, salió de la planta del gas un tractor amarillo.
Donc moi j'étais à côté du dépôt de gaz et d'essence et il y a un tracteur jaune qui est sorti.
Cuando salió el tractor amarillo bajaron los militares disparando así.
Et donc il y avait des militaires dans ce tracteur jaune et ils ont tiré des rafales en descendant de ce tracteur.
Entonces al otro lado río de Achucalla y un militar corrió al cañón dispara.
Et là, de l'autre côté, donc, il y avait un militaire qui avait une mitraillette et qui tirait des rafales aussi. Et
à l'aide de nous, nous étions bien là, nous sommes escapés. Donc, je me parais dans une tiendita ahí, pequeña.
Alors, on courait tous un peu dans tous les sens, et moi, je me suis réfugié dans une petite boutique, dans une échoppe.
Y ellos, cuando miré hacia atrás, entonces los militares se están poniendo en posición para dispararnos ahí.
Y moi, j'ai regardé derrière moi y j'ai vu un militaire qui se mettait en position.
Y ahí es cuando un amigo estaba al lado de mí, un joven flaquito, entonces él gritó primero, ¡ay!
Sin y là, j'avais un copain à côté de moi qui était tout maigre, y là, tout d'un coup, il a crié.
De ahí, yo sentí un golpe, como me hubiesen pegado con palo.
Y moi, j'ai ressenti un choc, como si on m'avait tapé avec un bâton.
Y como hubiesen tenido algo, calambre, así.
Y j'ai reçu como un electrochoc.
Y cuando ya quería pisarlo, quería dar unos pasos, ya no podía, quería caerme. Ya.
Et là, je voulais marcher, puis je pouvais plus marcher, je tombais.
Ahí es cuando yo dije auxilio, me arrojé a la tiendita.
Y... Alors là, j'ai appelé au secours, et puis je me suis rapproché de cette petite échoppe.
Y ella me auxilió, me hizo tourniquets, todo.
Donc c'est elle qui m'a secouru, c'est la vendeuse, elle m'a fait un garrot pour que je perde pas tout mon sang.
Estaba yo botado en el piso y yo no he visto más afuera.
Moi j'étais par terre et j'étais allongé par terre et là j'ai perdu connaissance.
Y después de unos dos, una hora o media hora creo debe ser, cuando ya pasó todo, entonces me llevaron, la misma señora sacó su minibús hacia afuera, entonces...
Une demi-heure ou une heure après, je sais pas exactement, cette même femme, la vendeuse, m'a chargé dans son minibús et m'a emmené.
Y ahí es cuando mi esposa llegó...
Et là, c'est ma femme qui est arrivée, je lui ai dit que j'allais mourir.
Et
ma femme, elle venait d'accoucher depuis un mois.
Et alors, Louise parle de sa femme, mais sa femme est juste à côté de lui, écoute très attentivement son récit, et elle a un bébé qui est en train de téter joyeusement.
Trois bébés.
Voilà, oui, parce que maintenant j'ai trois enfants. Oui.
Ya estaba, me puse a dormir, parece que ya tenía sueño y como en sueños ya he visto dos hombres negros así, así lejos.
Y là, je me suis endormi y puis dans mes rêves j'ai vu deux hommes en noir qui étaient très 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 loin.
Se acercan esos dos hombres.
Ils se sont approchés de moi.
Me agarran de aquí del cabello.
Ils m'ont attrapé par les cheveux.
Y me llaman por mi nombre, Luis.
Ils m'ont tiré les cheveux, ils m'ont appelé Luis.
Luis, quand j'ai ouvert mes yeux, mon papa ne me stait jalando.
Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était mon père qui me tirait les cheveux et qui essayait de me réveiller.
Para que no me duerme.
Pour que je m'endorme.
Si no hubiese sido mi papá, tal vez me hubiese muerto.
Parce que si mon père m'avait pas fait ça, peut-être que je serais mort aujourd'hui. En ce moment, je suis dans le quartier de San Cata. Il y a un tracteur, il y a aussi un véhicule blindé de l'armée qui tire sur la population de San Cata.
Est-ce que tu as eu des indemnités? Tu as touché des indemnités pour ça?
Non, nada d'indemnisation.
Rien du tout.
Nada. Solamente me dieron un dinero para hacerme mi curación.
Donc ils ont juste donné un peu d'argent pour que je me soigne.
Esa plata no me alcanzó para nada, en una semana se terminó.
Mais cet argent, au bout d'une semaine, j'en avais plus.
Pero el dolor de mi pie es constante.
Et là, j'ai des douleurs qui sont constantes.
No puedo hacer trabajos pesados. Antes era albañil.
Moi, j'étais maçon avant, mais je peux plus faire des travaux durs comme ça.
Estaba construir las casas así. Pido justicia, ¿no?
Moi, ce que je demande, c'est la justice. Que justice soit faite.
Quiero que venga el Gonzalo Sánchez de Lozada aquí a Bolivia.
Je veux que Gonzalo Sánchez de Lozada vienne ici en Bolivie.
Que responda por los daños que ha hecho, que ha matado gente, me ha bajado mi pie.
Et qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait, pour les gens qu'il a tués.
Y un asesino tiene que pagar por lo que ha hecho.
Oui, c'est un assassin. Il doit assumer ses responsabilités.
Vamos a inaugurar el juicio de responsabilidad contra Gonzalo
Sánchez
de Lozada.
Donc on va ouvrir le procès de responsabilité du cabinet ministériel de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Y todas las viudas que han fallecido, los de los fallecidos más van a ir allá.
Et toutes les veuves vont aller là-bas, ils seront présentes au procès.
Nosotros estamos saliendo a las 5 de la tarde.
On part à 5 heures de l'après-midi.
En la cruz papal no hay una cruz grande.
On a rendez-vous devant la croix papale.
Ahí vamos a estar reunidos.
On sera tous réunis.
Aquí en la avenida Juan Pablo II, sí, sí. La carretera.
Ah, c'est sur l'avenue Jean-Paul II. On peut pas se tromper, la croix papale, avenue Jean-Paul II.
De mi carrera nació esta lamentación, compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta, no tenemos protección. Ay. trabajo para el inglés, trabajos de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya.
Alors là, on est en face de la croix papale. Et c'est sur l'avenue Jean-Paul II, quand même.
Ouais, GP2.
Mais ce qui est rassurant, c'est que l'effigie du Che, elle était plus haute que la croix papale. Ouais, on est en bonne voie, quoi. On est en train de s'émanciper un peu de l'Église catholique ici.
GP2, c'était pas terrible. Le jour où ce sera Benoît XVI, là, ce sera autre chose encore. Hein. On a encore reculé.
Francis Copas et Luis Castaño. Ils ont quelque chose de très particulier, tous les deux. C'est que Luis Castaño a perdu une jambe et que Francis Copas a perdu un bras. Et ils sont tous les deux devant nous. Et pourquoi et comment ça s'est passé? Ça s'est passé en octobre 2003, pendant ce qu'on appelle ici en Bolivie, et tout spécialement ici à La Paz et tout spécialement ici à El Alto, la guerre du gaz.
Voilà, 6 ans après, une façon d'évoquer cette insurrection avec... Deux hommes qui s'en souviennent et dont on voit qu'ils s'en souviennent. L'un a perdu la jambe, Luis Castaño, et l'autre a perdu un bras. Et ils sont tous les deux là sur ce coin de trottoir, non loin de l'endroit où ça s'est passé, avec une brutalité et une envie non pas de mater une émeute. Ce qui est fréquent dans la vie et les luttes. Mais là, il s'agissait vraiment de tuer le peuple. Il s'agissait vraiment de tuer le peuple, de terroriser le peuple, de le faire reculer dans le sang. Et le peuple a tenu.
Pancho.
Je m'appelle Don Pancho.
Le 12 de octobre.
C'était le 12 octobre.
En 2003.
En 2003.
Soldados.
C'était des soldats.
Yo de la vuelta. Así, hemos mirado y dado la vuelta. Uno no es aquí, me han disparado aquí.
Moi, je me suis retourné, là, on m'a tiré dessus dans le bras.
Y me he mirado mi mano, ya estaba todo roto, astilla, astilla siempre, todo era...
Donc j'ai regardé mon bras et il était complètement déchiqueté.
Et demain, tu vas avec tout le monde à Sucre?
Oui, on voyage tous là-bas, on part tous là-bas à Sucre.
Voilà, parce qu'il y a un procès contre les autorités de l'époque, contre le gouvernement de l'époque.
Más antes se escapa de Estados Unidos y ahora también se escapa el Perú, porque tampoco no pueden escapar. A nosotros nos tienen que solucionar, por ejemplo, hay 60 muertos.
Sánchez de Lozada, lui, il s'est enfui déjà il y a longtemps à Miami, et les autres, maintenant, ils se sont enfuis au Pérou, et nous, on a tout perdu.
Vous faites partie des victimes?
Je suis le coordinateur du comité impulsor du juicio de responsabilidad de Samuel Sánchez de Lozada. Estos 5 ans, nous avons travaillé avec les victimes impulsant ce juicio.
Non, moi, je suis partie du comité qui aide justement à ce que le procès ait lieu. Et donc, depuis 6 ans, on travaille pour que ce procès puisse enfin se dérouler correctement.
Qui sont les accusés?
Sont los ex ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ce sont les ex ministres du gouvernement de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Et los 5 generales del alto mando militar, también del gobierno de Gonzalo Sánchez.
Et les 5 généraux du haut commandement de l'armée pendant le gouvernement de Sánchez de Lozada.
Lo que 5 ans que nos ha costado la hora y fecha de este juicio, o sea, lo que va a pasar mañana.
Donc ce qui va se passer demain, ça fait 5 ans qu'on l'attend, et ça fait 5 ans qu'on se bat pour que ça arrive.
Alors, il y a un nouveau juge maintenant, puisque le juge précédent a été dessaisi de l'affaire. Il y avait des soupçons sur ce juge.
Bueno, nosotros hemos pedido un juicio de responsabilidades para ese fiscal porque estaba entrampando todo este proceso.
Nous, on a demandé un jugement en responsabilité de l'ancien juge parce qu'il était en train de bloquer tout le processus.
Il y a une chose qui m'étonne dans les témoignages qu'on a pu avoir, c'est que l'armée a tiré sur les gens, mais sans essayer de mater les meutes, sans avoir recours au gaz lacrymogène, etc. C'est-à-dire qu'on a tiré directement dans la foule.
El 85% de las víctimas,
85% des victimes,
mueren con impactos de balas, o en el pecho o en la cabeza.
Sont morts d'impact de balle ou dans le torse ou dans la tête directement.
O sea, sí ha habido intención de matar.
Donc l'intention était de tuer.
Y hay un decreto supremo que es el 27209.
Et il y a eu un décret suprême qui est le 27209.
Que instruye a las Fuerzas Armadas a que ellos van a resarcir cualquier daño con 50 mil bolivianos.
Qui donne l'instruction, oui, militaire de tuer en prétextant qu'il y aura une indemnité de 50 000 bolivars par insurgé abattu.
Et 5 000 pour los gastos funerarios.
Et 5 000 pour les frais d'enterrement. Donc 55 000 par tête.
Ça a été écrit noir sur blanc?
Precisamente es por ese decreto supremo que firman los ministros Gonzalo Sánchez Lozada y ejecutan los generales que los estamos enjuiciando.
C'est justement à partir de ce document qui existe et qui est signé par le président et ses ministres que nous les poursuivons.
Alors, vous partez pour Sucre, qu'est-ce que vous allez faire à Sucre ?
Sucre na nagasara en viaje en una toa na naka con otra na naka ka tiempo na pasap kito ka na ka 2003 en pasap kito ka reclamacero justicia lo rilo sarap na naka.
Ça c'est un aymara, vous avez répondu un aymara. Est-ce que vous pouvez répondre en espagnol?
Nosotros queremos justicia para el ex presidente de la Gonzalo Sánchez Lozada. Para eso estamos viajando a Sucre.
Nous on veut que l'ancien président soit jugé, c'est pour ça qu'on voyage à Sucre.
Si nos acompañará a tus instituciones, vamos a ser fallecidos y heridos de octubre.
Donc c'est l'association des victimes et des familles des victimes de la guerre du gaz.
Yo me llamo Dionisio Lecuña Adubiri.
Dionisio Lecuña
Adubiri.
Adubiri.
¿Cómo di gracias?
Yospajara.
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 Yospara.
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 Yospajara.
Yospara,
Luis. Yospajara.
Yospajara. Yospajara. Yospajara.
Yospajara.
Ah, on va faire rigoler tout le monde avec un mot, Yuspahara. Bien ?
C'est bien comme ça ?
Yuspahara. Ah, tout le monde se marre là. Ce qui est formidable dans cette histoire quand même, c'est que les idéologues et les théoriciens du néolibéralisme, de ces politiques, ne soient absolument pas mis en cause, que leur présence ne soit même pas évoquée, leurs idées même pas évoquées dans cette histoire, dans cette insurrection contre le néolibéralisme de la guerre du gaz. C'était un reportage avec Antoine Chao, montage Agnès Lebot. Merci à Véronique Aoza, Franck Poupeau, Yvon Lebot et à Solange Boitigui. La grande révolte indienne de Yvon Lebot, c'est aux éditions Robert Laffont. Carnet bolivien 1999-2007 de Franck Poupeau, c'est aux éditions Au lieu d'être. Et puis d'autre part, nous vous signalons que le 7e festival Ta Parole se tiendra le 12, 13 et 14 juin à La Parole Errante, 9 rue François Deberg à Montreuil sous au programme Babex, BabX Origine Contrôlée, rue de la Muette et bien d'autres groupes. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, c'est J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Également, même jeu sur rabat.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alain Armstam, Coyen Guyenne et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perret et Agnès Lebot. Quant à elle, attend vos messages au répondeur de là-bas, c'est J'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 Yuspahara.